Seigneur, merci. Je veux te rendre grâce. Je bénis ton nom pour ta présence au milieu de nous. Que la gloire te soit donnée. Que l'honneur te soit rendu parce que tu es Dieu. Merci, Éternel, parce que tu prends le total contrôle de chaque vie. Merci parce que tu nous accordes un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Merci, Seigneur, parce que tu illumines les yeux de notre cœur. Merci, Seigneur, parce que par ton onction, tu enseignes, Seigneur, ce soir, au travers de ton serviteur que je suis, afin que ton nom soit glorifié. Merci parce que, Seigneur, ta puissance accompagne ta parole. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus, nous avons prié. Que chacun dise Amen.
Amen.
Hallelujah. Donc, le thème que nous voyons ensemble aujourd'hui, c'est l'onction. Le mot onction est entouré d'un grand mystère dans le corps de Christ. Surtout dans les milieux dits charismatiques, là où il y a la démonstration de la puissance. Après le mot Jésus, le mot onction est le mot le plus populaire. Même les païens savent ce que c'est que l'onction. Parce qu'on entend dire, recevez l'onction. L'onction est ici. L'onction fait la différence. L'onction de prospérité, l'onction des miracles, etc. On entend parler de l'onction, n'est-ce pas, dans le corps de Christ. Et vous voyez, ce qui fait que plusieurs chrétiens aujourd'hui, quand ils parlent de l'onction, ils ne savent pas exactement ce que ça veut dire. Ils se souviennent simplement que le jour où on a parlé de l'onction, le prédicateur a parlé de l'onction, il y a eu la manifestation. Les gens ont tremblé, les gens sont tombés, les gens ont crié, les gens ont chanté. Donc pour eux, quand on dit onction, tout de suite, ils pensent à certaines manifestations surnaturelles. Ou alors à quelque chose de bizarre qui se produit quand l'onction est là. D'où l'importance d'être enseigné à ce sujet, parce que je vais vous dire quelque chose. Si vous connaissez Dieu au travers de la manifestation de Dieu, le jour où le diable viendra se manifester, vous ne saurez pas faire la différence entre Dieu et le diable. Parce que les gens confondent la manifestation de l'onction et l'onction. Qu'est-ce que c'est l'onction en fait? Quand on parle de l'onction, qu'est-ce que c'est? L'onction, selon le dictionnaire Larousse, veut dire, numéro 1, une application d'huile sainte sur une personne pour la consacrer à Dieu. L'application d'huile sainte sur une personne pour la consacrer à Dieu. Numéro 2, friction douce de la peau avec une substance grasse. Une friction douce de la peau avec une substance grasse. Ça, c'est la définition du Larousse. Et vous savez, les définitions du Larousse ne sont toujours pas, à tous les coups, les définitions spirituelles. Ok, ça, c'est la définition intellectuelle du mot onction. Mais, le mot onction vient d'un mot grec qui veut dire, qui crio. C-H-R-I-O. Crio. Qui veut dire enrobé d'huile. Qui veut aussi dire consacré à un ministère ou à un service pour Dieu. Enrobé d'huile ou consacré à un ministère ou un service pour Dieu. Donc on dit de quelqu'un qu'il est oint quand il est consacré à un ministère ou consacré à un service pour le service pour Dieu. Est-ce que ça va? Donc, on est oint. Maintenant, suivez-moi attentivement. Suivez-moi très bien. Je vais vous donner la définition du mot onction. Selon moi-même, mes études de la Bible. Parce que le Seigneur Jésus pouvait dire dans Luc 14, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a oint pour. Et dans Ésaïe 10, verset 27, la Bible dit, l'onction de Dieu brise le joug et ôte le fardeau. Donc, selon ces deux versets bibliques, Luc 4, verset 18, et Ésaïe 10, verset 27, Je définis l'onction comme étant la capacité surnaturelle que Dieu investit en un homme pour que cet homme accomplisse un mandat divin. Je reprends. L'onction est la capacité surnaturelle que Dieu investit en un homme ou en une femme pour accomplir le mandat divin. La capacité surnaturelle que Dieu investit en un homme pour que cet homme puisse accomplir un mandat qui vient de Dieu. Est-ce que celui qui fait le ministère, qui encadre des enfants à l'église, accomplit un mandat de Dieu? Dites-moi, est-ce que c'est un mandat de Dieu? Est-ce que celui qui fait des affaires accomplit un mandat pour Dieu? Est-ce que celui qui fait la politique en tant que chrétien accomplit un mandat de Dieu? Tout ce que vous faites pour le royaume étant mandaté de Dieu, vous avez besoin de l'onction de Dieu pour le faire. Même le collégien qui va au collège ou alors l'universitaire qui fait ses études supérieures a besoin d'onction de Dieu pour aller à l'université, pour faire ses études. Donc l'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu investit en un homme pour que cet homme accomplisse un mandat qui est divin. Maintenant, si nous parlons de capacité surnaturelle, qui peut être oint? Qui donc peut être oint? Qui peut être oint? On a souvent tendance à croire que l'onction est réservée uniquement au prédicateur, au prophète, à l'apôtre, au pasteur, à l'enseignant, à l'évangéliste. Quand on parle d'onction, on ne regarde que des personnes qui sont amenées à utiliser le pupitre pour le corps de Christ. Et c'est ce qui a amené beaucoup de chrétiens à ne pas opérer dans l'excellence, à ne pas voir la manifestation de la gloire de Dieu dans ce qu'ils entreprennent. Et vous voyez, parce que si nous ne nous reconnaissons pas que nous avons besoin de l'onction dans ce que nous faisons, ce qui est sûr, les résultats que nous allons obtenir ne seront jamais des résultats excellents, parce que nous allons combattre par notre propre force et non avec la force de Dieu. Donc, qui peut être oint? Toute personne qui a un appel de Dieu sur sa vie peut être oint par Dieu. Toute personne qui a un appel de Dieu sur sa vie, normalement, devra avoir l'onction de Dieu pour accomplir cet appel. Une femme qui est ménagère, qui n'a aucun emploi, qui ne s'occupe que de son mari, est-ce que cette femme a besoin de l'onction pour faire ce travail? Elle a besoin de l'onction pour s'occuper de son mari, n'est-ce pas? Une secrétaire dans son lieu de service, qui ne s'occupe que du secrétariat, est-ce qu'elle a besoin de l'onction de Dieu pour faire son travail? Si le chantre a besoin de l'onction pour faire son travail, aussi longtemps que ce que nous faisons est un appel de Dieu, nous avons besoin de l'onction pour le faire. Même le politicien a besoin de l'onction pour faire la politique. C'est pour ça que je ne suis pas de ceux qui croient que la politique est réservée aux païens. Sinon, Joseph, mon arrière-grand-père, ne serait pas le grand politicien en Égypte. Parce qu'il a été premier ministre. Il a gouverné en Égypte avec l'onction divine. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc même celui qui fait des affaires a besoin de l'onction de Dieu pour faire ses affaires. On a besoin de la capacité surnaturelle de Dieu pour la faire. Mais voilà un problème que nous avons, généralement. Quand on parle d'onction, on dit l'onction de Dieu est ici. Vous voyez des gens qui tremblent, vous voyez des gens qui, oui, ils ont la chair de poule. Toutes ces choses n'ont rien à voir avec l'onction en elle-même. Parce que l'onction, c'est une capacité de Dieu qui arrive pour accomplir un travail précis. Maintenant, pendant que je prêche sous l'onction de Dieu, parce que la parole de Dieu m'a été, l'onction de Dieu m'a été donnée pour prêcher, il peut se trouver qu'il y ait des manifestations dans la salle. Parce que la prédication sort avec la puissance de Dieu et les personnes s'écroulent sous cette onction. Ça ne veut pas dire que le fait de s'écrouler, c'est ça l'onction. Non, c'est le fait pour moi de rendre ministère qui est là la manifestation de l'onction au travers de quelqu'un qui a été appelé par Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous arrivez à faire la différence? Est-ce que ça va? Est-ce que vous me comprenez? Dans la capacité surnaturelle dans la vie d'un homme pour accomplir ce à quoi il a été appelé. Vous voyez, la Bible dit dans Zacharie 4, verset 6, Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dans tout ce que nous faisons, nous devons reconnaître une chose. Si Dieu nous a appelés, nous devons reconnaître que par nous-mêmes, par nos propres forces, par notre propre puissance, nous n'allons jamais accomplir ce à quoi Dieu nous a appelés. Et en plus, chaque fois que Dieu vous donne un appel, cet appel est au-dessus de votre propre potentiel. Cet appel est au-dessus de vous. Et par conséquent, vous avez besoin de la grâce de Dieu, de l'onction de Dieu sur votre vie pour accomplir cet appel que Dieu vous a confié. Est-ce que ça va? Et vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit aux chrétiens, n'ayez pas peur de penser grand, n'ayez pas peur d'avoir une grande vision, d'accepter la grande vision que Dieu vous a donnée. Si tu viens me voir, tu me dis, ok, homme de Dieu, Dieu m'a demandé de faire telle chose ou telle chose. Moi, tout de suite, je peux reconnaître que c'est Dieu, ce n'est pas Dieu. Parce que si tu me dis que Dieu t'a demandé de faire quelque chose que tu peux faire par toi-même, alors il y a de fortes chances que ce ne soit pas Dieu qui te l'ait demandé. Parce que chaque fois que Dieu va te demander de faire quelque chose, toi-même tu vas te dire, Seigneur, comment est-ce que cela est possible? Parce que tu vas découvrir par toi-même que tu n'as pas la capacité de le faire. Allez demander à Moïse. Moïse a voulu délivrer le peuple d'Israël par lui-même. Moïse a eu envie d'affranchir ses frères de la domination des Égyptiens. Et il a tué un Égyptien par sa propre force. Il a cru qu'en le faisant, il était capable d'accomplir le mandat de Dieu. Jusqu'au moment où il a été obligé de fuir. Et Moïse est entré dans le désert pendant 40 ans. Jusqu'au jour où il était avec des troupeaux, en train de perdre les brebis, et il a eu une vision où il y avait un buisson qui se consumait, mais ne brûlait pas. Et il s'est détourné pour voir, et puis Dieu lui a parlé, Dieu a parlé à Moïse en disant, j'ai vu la souffrance de mon peuple, et les cris que lui font pousser les oppresseurs. Je t'envoie vers ce peuple pour le délivrer. Quelle a été la réaction de Moïse? Moïse va dire à Dieu, Seigneur, je ne sais pas parler. Comment est-ce qu'ils reconnaîtront que c'est toi qui m'envoies? Qui es-tu qui m'envoie? Moïse, en ce moment-là, va arriver au point où il va se rendre compte que la tâche que Dieu lui demande de faire est trop forte. Pourquoi? Parce qu'il essayait par lui-même et il a dû fuir. Sa vie était mise en danger parce qu'il a voulu le faire par sa propre force. Mais ma Bible déclare dans Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. C'est par l'onction de Dieu que le travail sera accompli. Alors Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit un bâton. Il dit, jette-le par terre. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le bâton est devenu un serpent. Et Dieu lui dit, étends ta main et ramasse le serpent. Il étend sa main, il ramasse le serpent par la queue. Et le serpent redevient un bâton. Alors, qu'est-ce que Dieu essaye de montrer à Moïse? Dieu essaye de montrer à Moïse que tu n'es plus la même personne. Et il y a une puissance qui t'accompagne. Il y a une notion qui va avec toi. Et les signes et les prodiges t'accompagneront dans ce à quoi je t'ai appelé. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je viens te dire, mon frère, à la fin de cet enseignement, ce qui va se produire dans ta vie, c'est que la puissance de l'Éternel va être manifeste dans tout ce que tu entreprendras. La même puissance de l'Éternel te conduira. Des prodiges vont s'accomplir sur ta vie. Parce que je vais t'amener au point où tu commences à attendre la manifestation du miracle dans ta vie de tous les jours. Mon propre petit frère est venu me voir un jour. Il soutenait sa maîtrise. Et donc, j'étais dans ma chambre en train de prier. Il est venu me voir, me dit, je m'en vais soutenir ma maîtrise. J'ai dit, ok, on va prier avec toi afin que quand tu y ailles, que la main de l'Éternel soit sur toi. On a prié. Quand on a fini de prier, j'ai dit, ok, change-toi. Je lui ai donné un de mes costumes, j'ai dit, habille-toi correctement. Vas-y, je viendrai par la suite. Mais je t'assure que la main de Dieu sera sur toi et tout se passera bien. Vous voyez, on a souvent tendance à croire qu'on ne peut demander à l'onction d'agir que quand on prêche. C'est un mensonge. Dans tout ce que nous faisons, nous pouvons demander à l'onction de Dieu d'agir. Donc alors, je suis allé avec lui. Et je l'ai retrouvé en fait dans la salle. Quand on l'a appelé, j'ai commencé à prier en langue avec certains autres frères. Nous avons saturé l'atmosphère de la gloire, de la présence de Dieu. Et nous avons demandé à Dieu d'agir au travers de lui. Alors, il a commencé à exposer les mathématiques avec une telle excellence que ses propres professeurs ont dit, et j'ai entendu, et toute la salle a entendu, mais d'où lui vient cette audace? D'où lui vient cette intelligence? Cet étudiant, je le connais, il est timide, il n'est pas aussi brillant, mais aujourd'hui, son exposé, il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à redire. Qu'est-ce qui s'est passé? L'onction de Dieu est descendue sur lui. Il a commencé à parler de mathématiques comme s'il était en agrégé en mathématiques. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Les mathématiques ou la philosophie ou la science ou l'histoire-géographie ou toute la chimie ne doivent pas vous faire peur. Parce que Jésus-Christ s'est fait sagesse pour nous. La sagesse de Jésus est en nous. Nous avons besoin simplement d'activer cette onction en nous pour que nous puissions être premiers dans tout ce que nous entreprenons. Même à la radio, il faut avoir l'onction de Dieu pour faire son travail. En tant que banquier, on a besoin de l'onction de Dieu. On a besoin de l'onction de Dieu dans ce que nous faisons. Le problème que nous avons, c'est que très peu de chrétiens réussissent à reconnaître l'Éternel dans toutes leurs voies. Il dit, reconnaissez-moi dans toutes vos voies et j'aplanirai vos sentiers. Dans tout ce que vous faites, reconnaissez l'Éternel dans toutes vos voies et lui, il aplanira vos sentiers. Est-ce que ça va? Donc nous étions en train de dire, qui peut être oint? Qui peut être oint? Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le succès, l'excellence, la prospérité, simplement parce qu'ils se détournent de cette vérité fondamentale. Ils agissent par leur propre force et par leur propre puissance. Mais aussi longtemps que ce que tu fais, tu ne le fais pas de ta propre force, je vais te dire, tu es disqualifié pour le succès. Tu ne peux pas. Et vous savez, ce que j'aime au sujet de Dieu, c'est que Dieu a toujours utilisé des hommes, c'est-à-dire des personnes faibles, des personnes avec leurs lacunes. Et c'est pour ça que la Bible dit, c'est quand tu es faible que tu es fort. Parce que la force de Dieu s'exprime au travers de ta faiblesse. Il est donc important de reconnaître, quand nous travaillons pour Dieu, quand nous marchons avec lui, que nous sommes faibles par nous-mêmes. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, l'onction, quand elle est quelque part, elle laisse une empreinte de Dieu. Quand l'onction est quelque part, quand l'onction se trouve quelque part, vous avez l'empreinte de Dieu à cet endroit. Qu'est-ce que j'entends par là? Quelqu'un qui travaille avec l'onction, quand il enseigne, quand il prêche, vous-même vous reconnaissez que c'est Dieu qui est en train de travailler au travers de lui. Je n'ai jamais, en aucun moment, essayé de tirer le crédit de toutes les prédications et des enseignements excellents que je peux faire. Parce que je sais une chose, chaque fois que je vais enseigner, c'est l'onction de Dieu qui me conduit. Alors, qu'est-ce que donc nous avons que nous n'avons pas reçu de Dieu? Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, ce n'est pas par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. L'onction manifeste la force et la puissance de Dieu dans ce que vous faites. Quand l'onction est quelque part, quand vous avez l'onction de Dieu en vous, elle manifeste la force et la puissance de Dieu au travers de ce que vous entreprenez. J'ai entendu plusieurs fois des gens me dire, j'ai écouté le message à la radio, j'ai été bouleversé. Une fois, j'ai prêché dans un pays voisin, et donc après, il y a une dame qui est venue, elle courait, elle dit, je veux voir cet homme, je veux voir, elle est venue à la radio. Il y avait plein de personnes en fait, plein de personnes qui venaient à la radio, c'était en direct. Alors on a dû m'exfiltrer de la radio, parce que je ne pouvais pas sortir par la sortie normale. Donc je suis sorti un peu en camouflet. La femme a tellement pleuré à la radio que le pasteur m'a appelé pour dire, homme de Dieu, il y a une femme, elle insiste, elle pleure. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, demandez à la femme de venir me voir à l'hôtel, je vais la recevoir. Donc la femme arrive à l'hôtel, elle appelle ma chambre. Donc j'ai dit, ok, j'arrive, je descends. Je descends de l'ascenseur, la femme attendait juste en bas. Quand j'arrive, je dis, c'est vous qui voulez voir le révérend Wafo? Elle dit, c'est moi. Elle dit, oui, c'est moi qui voulais le voir. J'ai dit, me voici. Elle fait marche arrière, elle me regarde, elle dit non. Elle dit, je veux voir le monsieur qui parlait à la radio avec autant d'autorité. J'ai dit, c'est moi. Elle dit non. Elle fait marche arrière. J'ai dit, je vous dis, c'est moi le référent Wafo. J'ai dû appeler quelqu'un pour qu'on lui rende témoignage disant, c'est vraiment moi. Et quand j'ai vu la stupeur avec laquelle elle me regardait, j'ai dit, ok, montons, je vais te recevoir dans mes appartements. Quand elle est arrivée, elle me dit, homme de Dieu, je n'ai plus rien à dire. Je t'ai vu et j'ai eu mon miracle. J'ai dit, comment ça? Elle dit, je t'ai vu, ça suffit. Mais vous voyez, l'onction de Dieu peut travailler sur vous au moment où les gens vous confondent à Dieu. Quand ils vous voient, ils veulent vous adorer. Ils veulent vous prosterner devant vous. Parce que vous êtes, quand vous parlez, vous réjouissez leur cœur. Vous apportez un rafraîchissement dans leur homme intérieur. Vous apportez la solution au problème. Donc, ils peuvent vous prendre pour Dieu. C'est pour ça qu'il faut être assez humble pour dire, je ne suis pas Dieu, je ne suis qu'un serviteur de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et j'ai eu ce témoignage plusieurs fois des personnes qui appellent homme de Dieu, j'ai été béni. Mais je reconnais que c'est simplement l'onction de Dieu sur ma vie qui m'amène à travailler avec autant de puissance. Vous voyez, quand Jésus voulait entrer à Jérusalem, il était monté sur une âne. Et les gens ont balancé les vêtements par terre. Et Jésus montait, il entrait à Jérusalem, et vous voyez, les gens acclamaient. L'âne était contente parce qu'elle était une héroïne ce jour. Vous voyez, parce que les gens, c'est elle qui marchait sur les vêtements des hommes. En fait, Jésus n'a piétiné les vêtements de personne. Mais vous voyez, mais l'âne devait être assez idiote de se dire, c'est à cause de moi. Non, ce n'était pas à cause d'elle. Mais c'était à cause de Jésus qui la montait. Même si vous êtes quelqu'un que les gens méprisent, quelqu'un que les gens ne respectent pas, à cause de l'onction de Dieu sur votre vie, les gens vont mettre leur identité, leur personnalité sur le chemin. Ils vont vous demander de dominer sur eux parce que l'onction de Dieu va vous élever en standard que vous n'attendez pas. Est-ce que vous comprenez? L'onction de Dieu va vous élever. Les gens vont mettre leurs vêtements, leur identité, leur responsabilité, tout ce qu'ils ont sur le chemin, en disant « marche dessus !» Parce que simplement, ils auront reconnu qui te monte, le Seigneur de gloire. Vous savez, il y a un homme dans la Bible que j'aime beaucoup, c'est Pierre. Pierre était loin de Dieu. Quand Jésus est parti, il a refusé de continuer à couler sur l'onction de Dieu. Alors il est rentré à la pêche. Pierre était professionnel de la pêche, excellent pêcheur. La Bible dit quand il est allé dans les eaux, il n'a pas pu pêcher. Maintenant, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Quand tu es loin, l'onction de Dieu dispose à ton égard des faveurs qui font que toutes les créations de Dieu sont disponibles pour toi. Que ce soit l'argent, que ce soit les voitures, que ce soit les maisons, que ce soit les armes, que ce soit les chefs d'État, que ce soit les ministres, que ce soit n'importe qui, l'onction de Dieu quand elle est là, elle dispose la création à ton égard. Et donc Pierre a cru que par sa propre force, comme il était professionnel de pêche, il pouvait abandonner l'onction du Saint-Esprit et continuer, n'est-ce pas, à faire des miracles. Alors quand il est rentré à la pêche et qu'il a jeté son filet, les poissons ont communiqué entre eux. Alerte générale sous la mer, alerte générale, le rebelle de Dieu, celui qui a quitté la grâce et l'onction est venu à la pêche. Fuyons les eaux! Et tous les poissons ont fui. Pourquoi? Parce que l'onction n'était pas là pour attirer. Donc, dès que Jésus revient et qu'il parle à Pierre et que Pierre reconnaît, Jésus lui dit, jette ton filet à ta droite. Dès qu'il jette son filet, la même alerte sous les eaux commence à retentir. Alerte générale. Seuls les gros poissons sont appelés. Loin de Dieu a jeté son filet. Nous devons y entrer. Et tous les gros poissons sont venus se jeter dans le filet de Pierre. Pourquoi? Parce que quand vous êtes loin, même la création collabore avec vous pour le succès de votre mission. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens passent leur temps à chercher les poissons au lieu de chercher le maître. Les gens passent leur temps à chercher l'argent au lieu de chercher l'onction. Les gens passent leur temps à chercher des faveurs au lieu de chercher Dieu. Les gens passent leur temps à vouloir rencontrer les ministres au lieu de rencontrer le Saint-Esprit dans leur chambre. Vous voyez, quand vous avez Dieu, vous avez tout le reste. Josué était loin quand il a dit à la lune, au soleil, arrête-toi sur Gabaon. Le soleil a collaboré avec Josué à cause de l'onction. Rien ne va vous résister tant que l'onction de Dieu est avec vous. Est-ce que vous me comprenez? Tant que l'onction de Dieu est sur vous, rien ne vous résiste. Parce que la capacité surnaturelle de Dieu est en vous. Alors rien ne peut vous résister à cause de cette présence, à cause de cette onction, à cause de cette grâce, à cause de cette faveur, à cause de la main de l'Éternel sur votre vie. Est-ce que ça va? Vous voyez, et faites attention, l'onction quand elle est là, quand vous êtes loin, les gens vous voient, ils vous aiment. Ils vous aiment parce que les gens vous aiment.
Et vous allez vous rendre compte de quelque chose. Quand vous êtes loin, les gens qui n'aiment pas Dieu vous détestent. Vous comprenez de quoi je parle? Donc l'onction vous attire beaucoup d'amis, l'onction vous attire beaucoup d'ennemis. Donc ne soyez pas surpris que les gens vous détestent. En fait, je dis toujours aux gens, je vis ma vie chrétienne de telle enseigne que si quelqu'un me déteste, c'est un signe qu'il est possédé. Il a un problème. Parce que vous ne pouvez pas détester ce qui est juste. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc faites attention, l'onction aussi, à cet avantage et ce désavantage. Mais gloire à Dieu, parce qu'en fait, vos ennemis sont là pour vous aider à progresser, à avancer. Ils sont un signe indicateur que la main de l'Éternel est toujours sur toi. Malheur à toi lorsque les gens ne diront que du bien de toi. Malheur à toi lorsque tout le monde sera tes amis. Alors quelque part, ça veut dire que tu as un problème dans ta façon de marcher. L'onction dans ta vie va déranger certaines personnes. Je suis surpris de voir des gens chrétiens dans leur établissement, dans leur bureau, dans leur quartier, être amis à tout le monde. Les gens vont vous détester à cause de cette présence de Dieu en vous. Parce qu'elle va vous amener à être différent des autres personnes. On le verra plus tard dans l'enseignement. Quand je vais parler des exigences de l'onction. Qu'est-ce que l'onction réclame dans la vie d'une personne qui est ointe? Donc, l'onction de Dieu nous amène à avoir des résultats spectaculaires. Maintenant, suivez-moi bien. Vous voyez, nous appelons souvent Jésus en disant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que Christ n'est pas le deuxième nom de Dieu, de Jésus? Est-ce que vous savez que Christ n'est pas le deuxième nom de Jésus? Jésus ne s'appelle pas Christ. Non, non. Jésus s'appelle Jésus, il s'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous, c'est le nom qui nous a été donné. Maintenant, Christ vient simplement dire loin. C'est tout. Jésus, loin. C'est tout ce que ça veut dire. Donc Jésus-Christ n'est pas le nom de Jésus. C'est Jésus loin. Christ veut dire loin. Il était tellement loin qu'on a fini par l'appeler Jésus-Christ. Jésus loin. Tellement la force de Dieu, la puissance, la grâce de l'Éternel se manifeste au travers de sa vie qu'on a fini par l'appeler loin. Mais ce n'est pas son nom. C'est un qualificatif qui est collé à son nom pour montrer comment est-ce qu'il a excellé dans la marche avec l'onction. Est-ce que ça va? Vous voyez, suivez attentivement, suivez-moi très bien. Vous savez dans la salle que Jésus était Dieu, n'est-ce pas? Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Maintenant cette parole est venue et s'est faite chair au milieu de nous. À ceux qui l'ont reçue, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que vous savez que Jésus était aussi homme? Quels sont ceux qui savent que Jésus était homme? Très important. Jésus était 100% Dieu, Jésus était 100% homme. Mais je vais vous dire que quand Jésus a accompli son ministère sur terre, il ne l'a pas accompli en tant que Dieu, mais il l'a accompli en tant qu'homme. Et ça, c'est un mystère. La Bible dit dans Philippiens 2, verset 7, « S'étant dépouillé de sa condition de Dieu, étant devenu semblable aux hommes, il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix, n'est-ce pas? S'étant dépouillé de sa condition de Dieu, Philippiens 2, verset 7. Il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. Élevé qui? La personne Jésus et non Dieu. C'était l'homme. Parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Maintenant, suivez-moi très bien. Jésus n'a pas accompli son ministère sur terre en tant que Dieu, je reprends. Sinon, comment est-ce que vous expliquez que quand Jésus sort des eaux du baptême, la Bible dit, une voix se fit entendre du ciel disant, celui-ci est mon fils sur lequel j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Pourquoi est-ce que Jésus lui-même, quand il est dans la synagogue, lors du début de son ministère, ouvre la Bible dans Luc, dans la Bible, et il dit, n'est-ce pas dans le livre d'Ésaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Maintenant, dites-moi, est-ce que Dieu a besoin de Dieu pour travailler? Non, est-ce que ça va? Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que Dieu peut oindre Dieu? Non. C'est l'homme qui a besoin d'onction, de la capacité de Dieu pour faire son travail. Donc la partie de Jésus qui a accompli le ministère était cette partie humaine. C'est pour ça qu'il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc, ce que Jésus a fait comme miracle, vous et moi, nous pouvons faire les mêmes miracles si nous sommes appelés au service du Seigneur. J'entends des gens dire non, les miracles sont finis, c'était au temps de Jésus, Jésus était Dieu, mais Jésus a reçu l'onction de Dieu. Et si nous avons reçu la même onction, nous ferons le même travail et nous obtiendrons les mêmes résultats, voire même plus de résultats que Jésus ne l'a fait. Je ne suis pas sûr que Jésus, dans son ministère, a parlé à autant de gens que Billy Graham, ou alors à Dimi Swaggart. Dimi Swaggart parlait à 150 nations en même temps. 150 pays réunis autour l'écoutaient en même temps. Mais Jésus, pour parler à la foule, était obligé de monter sur la montagne. Il n'y avait pas de micro sans fil, il n'y avait pas de micro portable, il n'y avait pas d'instrument de musique. Il utilisait l'air de la montagne pour parler, façon que les gens qui sont en bas l'entendent. Donc, les gens aujourd'hui qui sont loin peuvent faire des choses que Jésus même n'a pas fait. Et dans le ministère de Jésus, on a vu des gens ressusciter des morts. Nous avons aujourd'hui des morts qui ressuscitent. Les aveugles ont vu, on a des aveugles qui voient. Les paralytiques ont marché. Aujourd'hui, encore des paralytiques marchent. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu continue de faire son travail. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Je suis simplement en train d'introduire, n'est-ce pas, ce thème sur l'onction, afin que nous comprenions certaines choses. Vous voyez, l'onction est toujours donnée pour accomplir quelque chose de précis. Jésus dit, l'onction de l'Éternel est sur moi, Dieu m'a oint pour. Donc l'onction a un but qu'il devra atteindre. Si tu dis, je vais être oint, il faut que tu saches quel but tu veux atteindre avec l'onction. Est-ce que ça va? Oh, j'ai vu des réunions. Venez, recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction. Et les gens se mettent, ils viennent, ils reçoivent. Même le païen, tout le monde se met à recevoir l'onction. Non. La Bible dit, on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens, ni les perles aux poussons. L'onction est tellement précieuse que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir l'onction. Les païens ne peuvent pas goûter à l'onction de Dieu. Je suis désolé. Il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent avoir part à l'onction de Dieu. C'est quelque chose de précieux dont tout le monde ne peut pas avoir accès à cette grâce. Elle est réservée à nous qui avons cru. Donc, ce n'est pas tout le monde qui vient, je reçois l'onction. Recevez. Et vous voyez, quand on dit recevez l'onction, il y a des gens qui sont professionnels. Dès qu'on dit l'onction est là, ils tombent, ils sautent, ils dansent. Non, ce n'est pas en tremblant, en gesticulant que l'onction t'a visité, non. Ça n'a rien à voir. Vous voyez? Donc, l'onction, nous avons l'onction pour enseigner, l'onction pour prêcher, l'onction pour prier pour les malades, l'onction pour faire la politique si c'est notre appel. Le commerce, si c'est notre appel, pour être un étudiant, si c'est notre appel, pour être diacre, si c'est notre appel, pour être ménagère, si c'est notre appel, même l'onction pour être mari, il faut une onction pour être mari. Est-ce que vous êtes avec moi? En fait, laissez-moi vous dire ceci, je n'avais pas prévu, mais je viens de recevoir du Saint-Esprit. À chaque identité sous le ciel correspond une onction particulière. Quelle que soit l'identité que tu as sous le ciel, en tant que, n'est-ce pas, ouvrier dans le royaume, il y a une onction adéquate à cette identité. Tu es commissaire de police, c'est ton identité. Et tu es enfant de Dieu, tu as besoin d'une onction particulière pour exercer le travail de commissaire de police. Tu es planteur, tu as besoin d'une onction particulière en tant qu'enfant de Dieu pour être un excellent planteur. Maintenant, pendant que je parle, quels sont ceux qui se disent au fond d'eux-mêmes? Il me faut vraiment avoir l'onction, j'en ai besoin. Quels sont ceux qui se disent, j'ai vraiment besoin de l'onction de Dieu? Il peut arriver qu'il y ait des gens qui n'aient pas besoin d'onction. Vous savez que, généralement, il y a des gens qui aiment la médiocrité. Et vous, quand vous regardez au corps de Christ aujourd'hui, là où on parle de charisme et de puissance, c'est exactement à ces endroits où il y a la médiocrité. Faites très attention, très 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 attention. J'ai dit, l'onction va laisser l'empreinte de Dieu. Et même, l'onction va affecter jusqu'à votre manière de vivre dans votre maison. Si vous êtes oint par Dieu, je suis certain que vous ne pouvez pas habiter une maison et qu'elle soit sale. Si vous êtes oint par Dieu, vous ne pouvez pas porter des vêtements qui ne sont pas repassés, par exemple. Si vous êtes oint par Dieu, vous n'allez pas vous balader dans la rue avec une tête qui n'est pas bien coiffée. Parce que l'onction de Dieu, on va voir ça tout à l'heure, conduit votre vie entièrement. Est-ce que ça va? Et vous voyez des gens qui se plaignent. Et souvent, on est spécialiste dans le corps de Christ. Oh non, pasteur, il faut prier pour mon mari, il est possédé. Quand il rentre le soir, il n'aime pas rester à côté de moi, il est toujours devant sa télé. Pasteur, il faut prier, je crois, sur un démon. Il faut venir faire une onction d'huile, il faut répandre l'onction dans ma maison. Comme ça, cette onction va captiver le mari. Il y a des moments où l'onction n'agit pas comme ça. Et vous voyez, l'onction va vous amener à poser des actes adéquats qui vont faciliter dans le naturel la mise en place de certains miracles. Une femme, ton mari rentre à la maison le soir. Tu es en paille. Ton t-shirt est déchiré. Même le soutien que tu portes a des taches. Alors quand ton mari arrive, tu sens l'odeur de la cuisine. Ou des oignons et des tomates. Et imagine-toi, un homme normal, un homme qui aime Dieu, ne peut pas rester à côté de quelqu'un qui sent mal, qui sent mauvais. Vous voyez? Donc, la présence même de l'Esprit de Dieu dans la vie de votre mari va vous éloigner, va l'éloigner de vous. Tout ce qu'il pourra faire, c'est vous donner des conseils pour que vous soyez fréquentables. Et ça, je vous dis des choses vraies. Et souvent, nous passons tout notre temps à être trop spirituels, alors qu'il y a des choses qui peuvent être réglées dans le naturel, simplement. Je vous donne un témoignage que moi, j'ai vécu récemment. Et il y a un groupe de personnes qui ont fomenté un coup pour m'escroquer une somme importante d'argent. Et inclus dedans des gens qui vont à l'église, qui sont responsables dans le corps de Christ. Donc, j'ai été convoqué par la police judiciaire, j'ai été cherché ici par les policiers qui sont venus me voir, qui m'ont collé une histoire dans le dos. Et je vous dis honnêtement, au départ, moi j'ai banalisé, j'ai dit, ah, ça c'est rien, je suis un homme de Dieu, ça va passer. J'ai même rencontré un précieux frère, il m'a dit, écoute, si ça se complique, moi je connais telle personne, on va te donner un coup de main. J'ai dit, frère, j'apprécie énormément. Mais j'ai banalisé la situation. J'ai pris mon billet d'avion, je suis parti au Cameroun en mission. Et pendant que j'étais en train de prier, je ne priais même pas ce jour. Honnêtement, j'étais là, je me relaxais dans ma chambre d'hôtel. Et je voulais aller à la douche, j'ai senti une main qui m'a attrapé et qui m'a dit, mets-toi à genoux, tu pries pour cette affaire. Ça dit, c'était la première fois que j'expérimentais la pression de l'onction de Dieu de cette façon. Et je suis tombé à genoux sur mes pieds, j'ai commencé à prier. J'ai terminé l'histoire et puis je suis parti. Le lendemain, même scénario, je veux sortir la même tire. Et me dit, mets-toi à genoux. J'ai commencé à prier. Et j'ai entendu distinctement une voix qui m'a dit, appelle la Côte d'Ivoire, prends des nouvelles. Et donc, j'ai appelé un de mes fils, j'ai dit, ok, comment ça se passe? Il me dit, bon, voilà, voici la situation et tout, mais je pense que voici ce qu'il faut faire. Et ça rejoignait exactement ce que Dieu m'avait dit. Vous savez, quand vous êtes loin de Dieu en certain moment, Dieu va s'assurer que vous n'existez plus par vous-même et que vous n'ayez plus l'habileté de défendre vos propres droits. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la parole qui m'est venue, celui qui te gifle à la joue gauche, présente de la joue droite, celui qui demande ton manteau, donne-lui ta tunique. Il dit, mais Seigneur, ces gens, ils veulent mon argent. Il dit, s'ils veulent l'argent, donne-leur l'argent. J'ai pris mon téléphone, je les ai appelés. Il dit, comment vous allez? Surpris. Il dit, ça va bien? Il dit, oui. C'est qui? J'ai dit, c'est le révérend Raoul. Ah bon? J'ai dit, ouais. Il dit, qu'est-ce que? J'ai dit, non, excusez-moi. Voilà, je vous appelle, je suis un homme de Dieu. Face à la situation qu'on traverse, je trouve que ce n'est pas utile. Nous sommes les enfants du Seigneur. Écoutez, je viens vous demander pardon. S'il y a quelque chose que je vous ai fait, pardonnez-moi. Mais je n'avais pas tort. J'ai dit, pardonnez-moi. Et puis tout de suite, j'ai senti comment il y a eu un ouf de la part de cette personne. Et il dit, c'est sincère ce que tu dis. J'ai dit, du fond de mon cœur, la Bible dit, si tu vas déposer ton offrande à Dieu, et si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, va vers la personne, demande pardon avant d'aller faire ton offrande. Je suis venu te voir, je ne peux pas faire l'offrande à Dieu tant qu'on a des problèmes. Il dit, ok, rappelle-moi dans 40 minutes. Je rappelle à ma mère, il dit, qu'est-ce que tu disais? Je reprends les mêmes phrases. Il dit, vraiment, j'ai été touché, c'est ce que j'attendais. Et vous voyez, souvent, quand les gens sont dans l'erreur, ils attendent qu'une autre personne vienne réparer leur erreur. Et quand nous sommes loin, nous devons agir, nous sommes en position de force. Est-ce que ça va? Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je suis rentré. Je suis arrivé, j'ai appelé, il dit, comment tu vas? Viens, on va manger. Et on a commencé. Et ça, je vais vous dire, après, on m'a raconté qu'après le coup de fil, cette personne qui s'était levée contre moi en ennemi est allée voir tout le monde pour dire non. Ce que vous dites, non, ce gars, c'est un homme de parole, c'est un homme, non. On ne doit pas faire ça contre lui, on ne doit pas faire ça. Mais vous voyez, et la personne me dit, j'étais étonné de voir ce que Dieu avait fait. Mais Dieu n'aurait jamais fait cette chose si moi-même, je ne m'étais pas tenu dans la parole de Dieu. Et vous voyez, je dis encore que si même ces personnes veulent de l'argent, je le leur donnerai. L'argent n'est pas mon argent, c'est l'argent de Dieu. Prenez-le si vous le voulez. Mais ensuite, je sais quelque chose. Chaque fois que l'ennemi te vole de l'argent, Dieu te rend ça 7 fois plus. Donc s'il t'a pris 1 franc, Dieu te rend 7 francs. S'il t'a pris 1 million, Dieu te rend 7 millions. Généralement, ce genre de persécution arrive parce que Dieu veut te bénir davantage. Est-ce que vous êtes avec moi? Et pour raccourcir le témoignage, c'est exactement ce qui s'est passé. Et je sais que c'était un signe que Dieu est en train de m'amener à une autre dimension de bénédiction. Donc, faisons très attention. La Bible dit dans Deutéronome 8, versets 17 à 18. C'est un passage qu'on a vraiment lu dans l'Église, mais aujourd'hui, je vais vous amener à comprendre ce que ça veut dire exactement. Deutéronome 8, versets 17 à 18. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force de les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à ses pères. Garde-toi de te dire, après avoir prospéré, que c'est ma force, n'est-ce pas, et mon intelligence qui m'ont donné d'acquérir ces richesses. Que ce n'est pas ma propre puissance que je l'ai acquise. Car la Bible dit, c'est Dieu qui te donnera la force de prospérer. Le même mot utilisé ici pour force est le même mot qui est utilisé pour onction. Donc c'est Dieu qui te donnera l'onction de prospérer et d'acquérir les richesses. Donc, nous avons besoin de Dieu. Et vous vous rendez compte quand vous lisez ce passage, et vous lisez Zacharie 4 verset 6, que ça veut dire la même chose. La Bible dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Donc c'est exactement le même passage. Dieu parle aux enfants d'Israël qui ont été éprouvés dans le désert pendant 40 ans. Et il dit, je vous ai fait passer dans le désert, afin que vous sachiez que l'homme ne vit pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc si tu dis, je suis disposé à marcher dans l'onction de Dieu, ça veut simplement dire, je suis disposé à marcher par la parole de Dieu. Quels sont ceux qui sont disposés à marcher par la parole de Dieu? Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu a une forte onction. L'onction se trouve dans la parole. Maintenant, il ne faut pas différencier les dons du Saint-Esprit et l'onction. On peut avoir des dons du Saint-Esprit et opérer, manifester les dons du Saint-Esprit sans l'onction du Saint-Esprit. Ça, c'est la complexité qu'on verra plus tard. On peut avoir des talents que Dieu nous a donnés, être un bon commerçant, avoir des talents de musicien, être un bon musicien, mais ne pas être un bon chantre. Parce que le chantre, il agit sous l'onction. Et aujourd'hui, on a beaucoup de personnes dans le corps de Christ qui chantent. Mais on a très peu de personnes qui sont loin dans leurs chansons. Oh, on a beaucoup de chants. On a beaucoup de musiciens dans le corps de Christ. Mais il y en a très peu qui ont l'onction de Dieu pour faire ce qu'ils font. Et quand l'onction de Dieu n'est pas quelque part, vous sentez la différence. Généralement, ce qui n'est pas fait par l'onction excite la chair. Ça amène votre chair à la joie. Il y a des méchances quand on les prêche, vous êtes simplement excité dans votre chair. Mais votre cœur n'est pas touché. Ça ne vous rapproche pas de Dieu. Ça veut dire que ce message n'était pas loin de Dieu. Parce que tout ce qui est loin par Dieu ramène les gens vers Dieu. Et tout ce qui est fait par nous-mêmes satisfait la chair de ceux qui nous écoutent. Même les prophéties que vous entendez dans le corps de Christ aujourd'hui ne sont pas les prophéties de l'onction de Dieu. Oh, Dieu me montre, tu voles dans un avion, je te vois à Jakarta, je te vois en Suisse. Dieu me montre, tu prends un visa, Dieu me montre, non. Ça c'est, écoutez, ça c'est la satisfaction pure de la chair. Ça n'a rien à voir avec l'onction du Saint-Esprit. Parce que quand l'onction du Saint-Esprit est quelque part, la prophétie qui est donnée te rapproche du Seigneur. Dites-moi un peu, quand le prophète Agabus va rencontrer l'apôtre Paul, et il dit à l'apôtre Paul, celui à qui appartiennent ses ceintures sera attaché et lié à Jérusalem. Est-ce que c'était une prophétie qui fait plaisir? On dit, on va t'attacher, on va te lier. On te décourage même de faire la chose de Dieu. Ça fait plaisir? Aujourd'hui, on aurait dit, ah, ça c'est un faux prophète. Il ne s'est pas prophétisé. Mais Agabus a prophétisé avec l'onction du Saint-Esprit. Mais quelle a été la réponse de Paul? Il dit, écoute Agabus, je respecte ton onction et la parole que tu as donnée. Non simplement, je suis prêt à être lié à Jérusalem, mais encore je suis prêt à mourir. Rien ne me fera reculer de mon appel. S'ils veulent me tuer, qu'ils me tuent. J'irai faire ce à quoi Dieu m'a appelé. C'est comme ça que l'onction travaille. Ça te rapproche de Dieu et tu es audacieux. Partout où tout le monde recule, tu avances. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui te donne le courage d'un jeune lion. Les gens qui sont hauts sont courageux. Ils n'ont pas peur de l'adversité. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, même face aux situations, quand vous êtes haut et quand vous n'êtes pas haut, vous ne réagissez pas de la même façon. Allez demander à David, il va vous dire, quand il a affronté Goliath, le peuple était rangé en bataille pendant 40 jours. Et Goliath faisait 3 mètres 10 environ. Il sortait et disait, oh, vous là, esclave de Saül, vous là, si quelqu'un est fort qui vient se battre avec moi, qu'il vienne, j'écraserai, je trancherai sa tête, je le ferai mourir. Si quelqu'un est garçon qu'il avance, pendant 40 jours, le peuple de Dieu chantait les louanges. Il est doux et agréable de servir le Seigneur. Alléluia. Il est doux et agréable de servir le Seigneur. Amen, 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 amen. Et puis après, Goliath sort, il dit, ok, vous avez chanté. Si quelqu'un est garçon qui vient, le chant recommence. Il est doux et agréable de servir le Seigneur. Amen, 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 amen. Et puis il chante. C'est exactement ce qui se passe. Les défis, nous, on est confronté aux défis dehors. On se cache à l'église, on chante. Il est doux et agréable de servir le Seigneur. Les problèmes t'attendent dehors. Si tu es garçon, si tu es loin, affronte-nous. Et personne n'osait sortir vers Goliath. Jusqu'à ce qu'un jeune homme, qui à 16 ans a été oint par le prophète Samuel, un jeune homme, et donc, la Bible dit que quand il a affronté Goliath, il devait avoir probablement entre 18 et 23 ans. Enfin, selon certaines inscriptions faites par des théologiens. Alors, on envoie David aller remettre à manger à ses frères. David est oint de Dieu. David avance. Il arrive et il entend les chants de l'église. Il est doux et agréable de servir le Seigneur. Amen, amen. Et juste après, il entend la voix de Goliath. Il remet le truc à ses frères. Il dit, mais il entend. Si quelqu'un est garçon qui vient, je trancherai sa tête. Je le tuerai. Bande de lâches, venez vous battre avec moi. Et puis maintenant, entre-temps, à l'église, pendant qu'il y a problème dehors, les gens sont entre eux en train de causer. Est-ce que tu sais que le roi a dit que celui qui tue ce gars-là, sa famille ne paie plus les impôts? L'église est spécialiste des murmures et des bénédictions. Ah, Dieu a dit, la Bible dit, mais personne n'entre en possession de ce que la Bible dit. Mais les gens commentent entre eux, personne n'est assez courageux pour se lever avec la grâce de Dieu en lui pour faire ce à quoi Dieu l'a appelé. Alors, David écoute. Il pose la question à une deuxième personne. On lui répète la même chose. Il pose après la. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va tuer ce gars? Il n'a pas dit celui qui va se battre, mais celui qui va le tuer. Il dit, non. Il va épouser la fille du roi. Il dit, quoi? En plus, sa famille ne paiera, sera affranchie. Il dit, c'est pas possible, j'irai me battre. Parce qu'il était loin. Et donc, maintenant, quand il va aller vers Saül, Saül va dire, mais tu es un jeune homme. Il dit, laisse tomber. Moi, j'étais en brousse. J'étais loin par Dieu. Quand l'ours et le lion venaient. Et s'attaquait à mes brebis. Je fonçais sur l'ours avec mes propres mains, je le tuais. Et j'ai tué le lion. La même onction qui était sur ma vie, qui m'a fait tuer l'ours, qui m'a fait tuer le lion, va terrasser Goliath. Je suis prêt à aller me battre. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, suivez-moi bien. Il n'y a pas eu une séance de prière spéciale pour que David aille se battre. La même onction que David avait dans la brousse, c'est avec la même onction qu'il est allé sur le palais. Est-ce que vous savez que souvent vous méprisez l'onction que Dieu vous a donnée? Vous vous limitez à faire des petites choses. Comment vous imaginez que quelqu'un qui a l'onction royale pour être roi s'en va tuer le lion en brousse? Et c'est exactement ce qu'on fait avec l'onction dans nos églises. On passe le temps à faire des petites choses dans l'église avec l'onction. La même onction qu'on utilise dans l'église est capable de bouleverser toute une nation. Il faut simplement respecter et croire en ce potentiel que Dieu nous a donné. La même onction avec laquelle tu as un chiffre d'affaires de 100 000, t'amènera à avoir un chiffre d'affaires de 100 millions. La même onction que tu as actuellement, t'amènera à gouverner, à être ministrateur de société quelque part. La même onction que tu as actuellement, va attirer un roi vers toi pour dire, je demande ta main. Les gens ne respectent pas l'onction qu'ils ont. David, quand les gens ont regardé Goliath, ils ont dit non, Goliath est trop grand. Personne ne peut le battre. David a regardé Goliath. Parce que quand tu es loin, tu vois les choses différemment. Il a regardé Goliath. Il a vu Goliath trop grand. Il a regardé sa fronde et son caillou. Il dit, si avec la fronde je peux tuer un oiseau, ce n'est pas avec un homme de 3 mètres 10 que je vais rater. Goliath est trop grand pour que je le rate avec ma fronde. Je vais le terrasser. Vous voyez, tout est... l'onction vous amène à voir les choses différemment. Vous les voyez différemment. Quand les gens voient l'échec, la difficulté, vous voyez la réussite et la percée parce que vous êtes loin par Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est pour ça que quand le diable veut vous prendre dans le piège, il va posséder vos pensées et vous amener à croire que vous êtes fini, que vous n'êtes plus rien. Et dès que vous acceptez, vous paralysez la force de Dieu qui agit en vous. Je suis plus que vainqueur. La Bible dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ça veut dire l'onction du Seigneur en moi, l'espérance de la gloire. L'espérance d'un miracle. L'espérance d'une porte ouverte. L'espérance d'une manifestation surnaturelle. C'est ce que j'entreprends. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et nous avons vu que Christ veut dire loin. Loin en moi, l'espérance de la gloire. Vous savez, il y a une dame qui un jour est venue me voir. À la fin d'un... Enfin, je prêchais même. Et puis j'ai simplement dit, ballant le message, l'onction de Dieu va agir de façon étrange et va ramener un enfant qui a quitté la manie et la maison depuis longtemps, n'est-ce pas, à la maison. L'onction va ramener cet enfant. La femme est venue me voir pour dire, c'est de moi qu'il s'agit, mon enfant est parti depuis longtemps. J'ai dit, ok, quand je prêchais, je l'ai dit sous l'onction, parce que j'ai parlé par le Saint-Esprit. Et elle est rentrée, j'ai donné mon numéro au téléphone. Quand elle arrivait à la maison, son fils attendait devant la porte. Il était tout tremblant, tout apeuré. Il dit, maman, je ne veux plus jamais faire de fugue, je veux rester à la maison. Et cet enfant a donné sa vie au Seigneur. Pourquoi? La manifestation de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne s'attendent pas à des signes extraordinaires, surnaturels, de ce que Dieu est capable de faire. Il faut vous attendre à la visitation de Dieu dans ce que vous faites. Maintenant, suivez-moi bien. Je vais donc conclure en enseignant le mécanisme de l'onction. On a parlé de l'onction. Maintenant, comment est-ce qu'on déclenche l'onction? Le mécanisme de l'onction. Qui dans cette salle me dit, j'ai besoin de l'onction de Dieu dans ce que je fais? Vous voyez, écoutez-moi bien, c'est vrai que vous avez besoin que des hommes de Dieu prient pour vous et tout, mais il est aussi très important de faire fonctionner votre onction personnelle. J'ai dit, vous avez droit à une onction pour accomplir ce à quoi vous êtes appelé. Est-ce que ça va? Maintenant, suivez-moi attentivement. Qui de vous est venu à Dieu par lui-même? Qui de vous est venu à Dieu par lui-même? Non, même si tu penses que tu es venu à Dieu par toi-même, la Bible dit, n'est-ce pas, nul ne peut venir à Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qu'il a. Si ce n'est l'Esprit de Dieu qu'il a. Et vous voyez, quand on a défini l'onction, on a parlé de l'onction comme étant oindre. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, l'huile était le symbole du Saint-Esprit. Donc quand vous voyez l'huile dans la Bible, c'est un symbole du Saint-Esprit. Même quand on oint les malades, c'est simplement une forme de représentation, de symbole qui veut dire que la présence du Saint-Esprit sera là pour accomplir quelque chose. Est-ce que ça va? Donc l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Maintenant, si le Saint-Esprit nous attire, et si par lui nous avons connu Dieu, pourquoi est-ce que vous pensez que quand le Saint-Esprit vous a amené à Dieu, il va vous abandonner une fois que vous connaissez Dieu? Numéro 1, le mécanisme de l'onction. Numéro 1, si vous voulez avoir l'onction, l'onction commence par la révélation. Écrivez révélation. L'onction commence par la révélation. Et vous allez vous rendre compte que quand quelqu'un est loin, quand il parle, il a souvent l'impression d'expliquer des mystères. Il dit des choses, il dit, mais qui le lui a dit? C'est le Saint-Esprit qui le lui a révélé. Donc l'onction de Dieu commence numéro un par la révélation. Et chacun d'entre nous, nous pouvons avoir accès à la révélation. Les choses que l'œil n'a point vues, les choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais Dieu les a réservées à ceux qu'il aime. Donc il y a des choses que Dieu révèle à ses enfants. Donc numéro un, l'onction commence par la révélation. Donc, suivons-moi bien. À la nouvelle naissance, ce n'est pas le Saint-Esprit que nous avons été attirés par Dieu. Numéro 2, c'est toujours par le Saint-Esprit que nos cœurs ont été transformés de pierre en cœur de chair. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de devenir enfants de Dieu. Parce que personne de nous ne peut mener une vie chrétienne si le Saint-Esprit n'est avec lui. Est-ce que ça va? Donc j'ai entendu des gens dire, je me débrouille, je fais des efforts. Par moi-même, je fais ce que je peux. Ce que je ne peux pas, je ne fais pas. Si le Saint-Esprit n'a pas transformé ton cœur, tu vas beau essayer de devenir chrétien, tu seras exactement comme un singe qui essaye de devenir un homme. Tu vas ressembler à un homme, mais tu ne seras jamais un homme. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit transforme ton cœur. Et c'est ça qui fait de toi un chrétien. Car c'est lui qui te donne la puissance de devenir enfant de Dieu. Est-ce que ça va? C'est le Saint-Esprit qui te donne, n'est-ce pas, de devenir enfant de Dieu. Numéro 2. J'ai parlé de l'homme, j'ai dit la révélation. Donc j'ai dit la révélation, j'ai expliqué en disant la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit qui nous attire. Et ensuite, c'est le Saint-Esprit qui transforme nos cœurs. Donc ça, c'était dans la révélation. Il faut que Dieu se révèle à nous. Voilà, de cette façon. Maintenant, après la révélation de Dieu à nous, nous devons maintenant aller à la seconde étape, qui est l'étape de la communion avec Dieu. Jean 16, versets 13 à 15. L'étape de la communion. Après la révélation, doit venir la communion. Beaucoup d'enfants de Dieu ont eu la révélation de Dieu, mais très peu d'enfants de Dieu communient avec Dieu. Donc, il est important d'avoir la... Jean 16, verset 13 à 15. Je vais lire. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, car il vous dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est de moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pour ça que j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Maintenant, quand il dit, tout ce qui est le Père a est à moi, et qu'il prendra ce qui est au Père pour vous annoncer, ça veut dire que, dans ce que vous ferez, dans la communion avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va prendre la sagesse de Dieu, va prendre l'intelligence de Dieu, va prendre la puissance de Dieu, va prendre tout ce qui est à Dieu et va vous communiquer ces choses afin que quand vous fassiez cette chose, qu'on ait l'impression que c'est Dieu qui le fait au travers de vous. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est important, la communion, c'est important. Vous voyez, l'intimité avec le Saint-Esprit est indispensable. Très peu de personnes passent leur temps à avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas d'intimité avec le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas expérimenter l'onction de Dieu. Parce que l'onction est manifeste au travers de votre communion avec le Saint-Esprit. Maintenant, si le vendeur de la viande au marché, n'est-ce pas, vient vers vous, après avoir vendu au marché, il vient à côté de vous, quelle odeur vous allez sentir sur son corps? L'odeur de la viande, pourquoi? Parce qu'il a passé le temps avec la viande. Et si le vendeur du charbon vient vers vous après avoir vendu le charbon, qu'est-ce que vous allez sentir sur lui? L'odeur du charbon. Et si celui qui vend Dieu arrive devant vous après avoir annoncé Dieu, qu'est-ce que vous sentirez sur lui? L'odeur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a passé le temps avec Dieu. Donc vous voyez, l'onction, vous ne pouvez pas la manifester si vous ne passez pas le temps avec celui qui donne l'onction. Il est important d'avoir un temps de communion avec le Saint-Esprit. Et j'ai dit, vous pouvez prier sans avoir la communion avec le Saint-Esprit. Communion avec le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extrêmement différent de prier. C'est une intimité, c'est un moment où le Saint-Esprit et vous, vous échangez, vous parlez ensemble. Il y a des gens qui prient, mais qui n'ont jamais entendu la voix de leur Père, qui n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Si tu es là, lève ta main. Tu n'as jamais entendu la voix de Dieu, c'est pas bien. Et ce soir, tu commenceras à entendre la voix de Dieu. La Bible dit dans Jean 10, mes brebis entendent ma voix et me suivent, et ne suivront point la voix d'un étranger. Maintenant, dites-moi, maman, tu as un enfant. Est-ce que tu entends souvent la voix de ton enfant? Parfait. Est-ce que ton enfant entend ta voix? Parfait. Alors dites-moi, comment est-ce que vous pouvez dire, vous êtes enfant de Dieu et vous n'entendez pas la voix de votre Père? C'est là où j'ai un problème avec les chrétiens. Pourquoi est-ce que tu dis, Dieu est mon Père, mais je n'entends pas sa voix? Ton père doit te parler, n'est-ce pas? Alors maintenant, laisse-moi te dire. Le problème, c'est qu'on nous a enseigné à l'église que quand Dieu nous parle, il faut qu'on soit couché. Ou bien il faut qu'on soit à genoux. Ou bien il faut qu'on soit dans le jeûne. Non, Dieu te parle d'une manière ou d'une autre. Et la Bible dit, c'est toi qui daignes ne pas y prendre garde. Dieu parle de plusieurs façons. Maintenant, qui veut savoir comment Dieu parle? Qui veut savoir comment il parle? Très bien. Dites-moi, si vous écoutez mes messages, une fois à la radio, est-ce que vous saurez que c'est moi qui parle? Si vous m'écoutez à la radio, vous saurez que c'est moi? Vous écoutez mes cassettes plusieurs fois. Et un jour, vous entendez une cassette quelque part, vous saurez que c'est moi? Comment est-ce que vous allez savoir que c'est moi? Par comment? Par l'habitude de ma voix. Mais ma voix est comment? Qui peut décrire ma voix? C'est un peu difficile, n'est-ce pas? Mais vous, quand vous écoutez ma voix, vous savez que c'est moi qui parle. C'est exactement comme ça avec Dieu. Il faut apprendre à l'écouter une fois, l'écouter deux fois, l'écouter trois fois, l'écouter quatre fois. La cinquième fois, vous n'allez pas le rater. Vous saurez que c'est lui qui parle. Et vous savez, il y a des moments où vous arrivez quelque part, par exemple, et vous voulez... Il y a quelque chose qui vous dit, ne faites pas cette affaire, ou bien ne marche pas avec cette personne. Et tu négliges cette voix qui t'a parlé. Et plus tard, il y a un problème. Tu te souviens, tu te dis, ah, c'est comme s'il y avait même quelque chose en moi qui me disait de ne pas le faire. À qui c'est déjà arrivé? Le quelque chose qui est en toi était simplement Dieu qui essayait de te mettre en garde au travers du Saint-Esprit. Mais comme tu n'es pas habitué à entendre sa voix, tu n'as pas su que Dieu te parlait. Et la deuxième fois, tu vas encore peut-être ne même pas prendre garde. Puisque même Samuel, quand Dieu a commencé à lui parler, il ne savait pas comment ce qu'il fallait faire. Et maintenant, c'est Saül qui lui a dit, écoute, la prochaine fois quand tu entends la voix, voici ce que tu vas faire. Donc ce n'est pas mauvais qu'au départ, vous ne saviez pas comment vous retrouver. Mais après cet enseignement, il faut que vous puissiez maintenant vous habituer à écouter distinctement ce que le Saint-Esprit vous dit. Je suis arrivé au point où, quand je rencontre quelqu'un, et que quelqu'un, cette personne, est une mauvaise personne. Quand je salue la personne, je regarde la personne dans les yeux, je peux savoir que cette personne est un enfant de Satan. Et je vais vous dire que même dans la situation que j'ai traversée actuellement, là, je n'ai pas de responsabilité, parce que si j'avais écouté Dieu, je ne serais pas arrivé là. Il ne faut pas faire les choses par complaisance. Ne faites pas les choses par qu'est-ce que les gens vont penser. Il faut obéir à Dieu. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas, n'est-ce pas, ami de Dieu. Donc il ne faut pas chercher à plaire aux hommes. Si Dieu vous met une conviction dans le cœur, apprenez à obéir à la voix du Saint-Esprit. Parce que les gens vont me dire, ok, homme de Dieu, comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que Dieu te révèle les messages? Comment est-ce que Dieu... Vous savez, mon écoute de la voix de Dieu a commencé quand j'ai pris un papier et que j'ai jeté par terre. J'ai entendu le Saint-Esprit me dire, ramasse ce papier et jette dans la poubelle. Les gens pensent que quand Dieu te parle, c'est seulement pour te dire, tu auras l'argent. Ou bien tu vas prêcher. Non! Dieu peut te parler en disant, sois propre. Dieu peut te parler en disant, n'écoute pas celui-là. Réponds comme ça. Mais nous, par exemple, quand les gens viennent nous parler de d'autres personnes, nous savons ce qu'il ne faut pas faire. Mais comment est-ce qu'on réagit? Il y a de la joie dans le cœur quand on parle mal d'un frère à côté de moi. Généralement, c'est comme ça. Parce que la Bible dit, la parole du rapporteur est comme une friandise à la bouche de celui qui l'écoute. Vous voyez? Donc, sur les petites choses, nous ne voulons pas écouter Dieu et nous pensons que dans les grandes choses, on va l'écouter. Non. Celui qui est fidèle en peu de choses, le sera aussi dans les grandes choses. Et c'est pour ça que la Bible dit, dans Romains 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Et vous voyez, on va faire la différence entre quelqu'un qui a le Saint-Esprit et quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Parce que les gens pensent que s'ils ne parlent pas en langue, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pouvais pas être là ce soir. Il y a des choses que tu ne comprendrais même pas de Dieu si le Saint-Esprit n'était pas avec toi. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, c'est une autre expérience. Avoir le Saint-Esprit, c'est encore une autre expérience. Ok? Il y a le Saint-Esprit en nous, il y a le Saint-Esprit sur nous. C'est deux expériences totalement différentes. La Bible dit, dans le livre de Romains toujours, n'est-ce pas, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc nous devons apprendre à être conduits par le Saint-Esprit. Comment est-ce que, si le prophète Élie n'était pas conduit par l'Esprit de Dieu, est-ce que vous savez que le prophète Élie serait mort au bord du torrent? Quand le torrent a séché, quand les corbeaux ne venaient plus, alors Élie, dans sa communion avec le Saint-Esprit, a entendu la voix de Dieu qui lui a dit, « Lève-toi, va, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Imaginons que Élie, un, n'ait pas entendu la voix de Dieu, il serait mort au torrent. Deux, qui n'ait entendu la voix de Dieu et qui ne soit pas parti, il serait mort au torrent. Donc, n'oubliez pas, après la communion, le troisième point le plus indispensable, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Vous ne pouvez pas voir la manifestation de l'onction de Dieu dans votre vie si vous n'êtes pas obéissant à Dieu. C'est l'obéissance à Dieu. C'est incontournable d'être obéissant à Dieu. L'obéissance. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La désobéissance est aussi coupable que la divination, la sorcellerie, la magie. Un homme qui est désobéissant à Dieu est aussi coupable, n'est-ce pas, que la sorcellerie. En fait, qu'est-ce que c'est la sorcellerie? C'est la manipulation des hommes, n'est-ce pas, par une certaine puissance. La manipulation, l'intimidation, la domination des hommes par une certaine puissance. Donc, si aujourd'hui, je manipule, je domine sur la vie de certaines personnes, ok, sans la puissance de Dieu, je manipule les gens, c'est de la sorcellerie. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire à Galates, « Oh Galates insensé qui vous a ensorcelé !» Dans l'église, il existe la sorcellerie spirituelle à l'église. Quand vous posez un acte dans la maison de Dieu, qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, mais qui est conduit par vous-même pour atteindre vos propres intérêts, la Bible appelle ça la sorcellerie. Et même dans les maisons, il y a des maris qui sont sorciers sur leurs femmes et des femmes qui sont sorcières vis-à-vis de leurs maris. Chaque fois que vous manipulez, chaque fois que vous intimidez, chaque fois que vous voulez dominer sur des gens, par une part en dehors de la voix de Dieu, c'est la sorcellerie. Ô Galates insensé qui vous a ensorcelé. Et même, nos enfants à la maison, si on ne fait pas attention, si nous-mêmes, nous ne sommes pas obéissants à Dieu, nous allons susciter une nouvelle génération de véritables sorciers. Regardez ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Vous voyez un enfant de 12 ans venir à la télé, vous dites, je m'en fous de mon père, je m'en fous de ma mère. 12 ans d'âge. J'ai vu un talk show, c'est-à-dire une émission aux États-Unis où une enfant est venue à 15 ans et dit à sa mère, je m'en fiche, fous-moi le camp. Moi, j'ai ma carte de crédit, j'ai ma voiture, j'ai pas besoin de toi. La femme, la mère pleure, elle dit, quitte là, dégage devant moi. Tu pleures, pourquoi tu verses tes larmes, tu as fait ton temps. D'abord, tu ne me verras plus. Vous imaginez, si aujourd'hui, on ne fait pas attention, ces choses sont en train d'arriver avec une grande allure dans notre génération, dans cette Afrique. Et c'est seule la marche par l'Esprit de Dieu qui va contrecarrer de telles choses. J'ai vu des parents mettre en prison, on a mis en prison parce qu'ils ont fouetté leur père, parce que leur père a fouetté l'enfant. Et l'enfant est battu par le père, et l'enfant appelle la police et on amène le père au commissariat. On enferme le père. Et c'est une loi qui a été votée aux États-Unis, alors que la Bible dit de ne pas épargner le fouet et la correction à l'éducation de l'enfant, parce que la folie est attachée à l'enfant. Et c'est le fouet qui va l'en épargner. Et si aujourd'hui on ne peut pas corriger nos enfants selon la voie du Seigneur, parce que les lois sont votées contre nous, c'est grave, c'est dangereux, c'est abominable. Nous devons, dans notre génération, apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. Et je vais vous dire quelque chose. Si aujourd'hui, vous apprenez à marcher avec le Saint-Esprit, je vous donne l'assurance que d'ici 3 ans au plus tard, votre vie va être une explosion de gloire, de richesse, de bénédiction, d'élévation, de prospérité, de restauration, parce que seule la marche avec le Saint-Esprit vous donne d'entrer dans la plénitude de votre héritage. Seule la marche avec le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que vous voyez, je peux prêcher 3 heures, 4 heures, mais je prends le temps, en tant qu'homme de Dieu, d'asseoir les gens dans la parole de Dieu. Parce que je sais que quand le Saint-Esprit viendra, il va utiliser le dépôt qui a été placé en vous, le dépôt de la parole. Vous voulez marcher avec le Saint-Esprit, ayez un dépôt de la parole de Dieu en vous. Dites-moi, est-ce que vous savez que même si vous ne connaissez pas la Bible et que quelqu'un vient vous enseigner une fausse doctrine, vous êtes capable de savoir, même sans connaître la Bible, que la doctrine est fausse quand vous avez le Saint-Esprit en vous? À qui c'est déjà arrivé d'entendre un enseignement et puis de dire, je crois que ça là, ça ne vient pas de Dieu? Au fond de vous, mais vous ne connaissez pas, il n'y a pas de connaissance de la parole. Vous n'avez aucun repère, mais quelque chose vous dit que l'enseignement là n'est pas de Dieu. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Donc, la semaine prochaine, nous allons aller en profondeur. Nous allons parler de, un, le Saint-Esprit en tant qu'enseignant individuel. On va parler de l'onction intérieure. On va parler de l'onction extérieure. On va parler des exigences de l'onction. Quelles sont les exigences que l'onction met sur vous? La Bible dit que Jésus, après avoir entendu la parole du Seigneur, celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La Bible dit que le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Pas le diable. Le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Pour être tenté par Satan pendant... Ok, maintenant. Écoutez-moi très bien. C'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert. Et il est probable que certaines personnes dans cette salle, les déserts que nous traversons ne sont qu'une école de Dieu où Dieu veut nous parler afin que nous sortions de là avec une grande puissance, une grande restauration et de grandes richesses. Vous avez été béni par le ministère du révérend Raoul Wafo et vous tenez à acquérir d'autres messages soutenus par vos dons Wafo Ministries. N'hésitez pas. Contactez-nous au 225 22 52 24 02 ou au 225 07 85 96 97. Demeurez béni.